Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes bien à l'écoute du Radio Canu, du Canu Info exactement. Alors aujourd'hui, pour le sommaire de cette émission, on va commencer donc par le local, où on va vous parler de Lyon Métropole, d'une pétition du collectif 69 pour un boycott d'un spectacle israélien. Ensuite, on va partir à la rubrique nationale, où là, on va vous parler un petit peu de ce qui se passe autour de Charlie, du fameux Charlie dont tout le monde parle. On va vous parler aussi, pour rester dans cette belle question de la liberté d'expression, du procès d'un groupe de rap, des grèves des dames pipi, la chronique des SDF avec ce qui se passe à Marseille, Perpignan, Angoulême et États-Unis en ce moment. Ensuite, on va partir à l'international. On va parler de l'Algérie, des mouvements contre les gaz de schiste, des manifs de malades de l'hépatite C en Espagne, et peut-être un sujet sur l'Équateur si on a le temps. Et on finira bien sûr sur le fameux et tant attendu agenda du week-end.
Alors voilà, donc pour commencer, on va parler de Lyon Métropole, puisque depuis le 1er janvier, nous sommes devenus une métropole. Chic alors.
Wouhou.
Alors du coup, il y a des équipes qui ont travaillé à voir comment on pourrait transformer le Grand Lyon et le département en métropole de Lyon. Le but, c'était d'essayer de faire en sorte que le service public n'en pâtisse pas trop de tous ces changements. Mais c'était pas évident, vu qu'il fallait organiser plein de missions dans des secteurs qui étaient inconnus de la communauté urbaine Le Grand Lyon, comme l'enfance, le social, le handicap et la gestion des collèges. Et du coup, il y a eu pas mal de problèmes en ce début d'année, parce que pour partitionner le système informatique qui permet la gestion des prestations sociales comme les prestations de compensation du handicap, les aides financières de maintien dans le logement et tout ça, il a fallu arrêter la saisine de nouveaux dossiers. Du coup, ça a fait que pendant 3 semaines, là, jusqu'au 5 janvier, les agents avaient dû écrire sur papier toutes les nouvelles demandes. Elles pouvaient plus les rentrer par ordinateur. Du coup, ça a fait plein de travail supplémentaire. Ça a été compliqué, ce qui fait que ça a pris beaucoup de longueur et d'attente. Et là, il y a encore beaucoup de dossiers en attente. Et voilà. Et c'est un peu ce qui nous attend apparemment en métropole. C'est plus de temps pour traiter les dossiers. Mais le but de la métropole, c'était avant tout de faire des économies.
Et oui, et sachant que ça a posé pas mal de questions aussi, parce que notamment au niveau du nouveau découpage politique, donc parce que ça veut dire que pas mal de politiques sociales vont être soumises à Lyon Métropole et plus au département du Rhône, donc il va y avoir un nouvel enjeu politique dans les élections, et aussi donc par rapport à comment sont répartis l'argent des impôts locaux notamment, puisque d'un côté il y aura Lyon Métropole avec pas mal d'argent, parce que c'est un peu le gros centre économique, enfin c'était le gros centre économique du Rhône, et de l'autre côté il y aura un nouveau Rhône qu'aura perdu Lyon et le Grand Lyon, qui rapportait pas mal d'argent, donc sûrement un creusement des inégalités au niveau local.
Et voilà, et du coup, il y a certaines structures qui étaient jusque-là pilotées par le département qui vont rester organisées à un niveau départemental métropolitain. Comme maintenant, il va falloir dire ça. Du coup, la maison départementale des personnes handicapées, maintenant, c'est la maison départementale métropolitaine des personnes handicapées. Et pareil pour les maisons du Rhône, le conseil départemental consultatif du Rhône, le conseil des familles du département, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, enfin, plein de structures comme ça. Et voilà, et sinon donc la métropole va financer le nouveau Rhône et récolte des emprunts toxiques. Donc elle a un budget de 3,5 milliards d'euros au lieu de 2,2 milliards d'euros pour le Grand Lyon avant. Et la métropole va peser lourd, beaucoup plus lourd que le nouveau Rhône du coup. Et donc il y a Michel Mercier qui est l'homme fort du Conseil Général qui a demandé une aide pérenne de la métropole et la prise en charge d'une partie des emprunts toxiques. Du coup, Gérard Collomb a accepté, c'était la condition pour faire de la métropole le plus vite possible. Voilà, donc du coup, ça a été validé comme ça, et la métropole de Lyon versera chaque année 75 millions d'euros au nouveau Rhône à titre de compensation. Donc on verra ce que ça donne d'être dans une métropole, mais en tout cas, on a pu voir à Barcelone que ça accélérait les processus de gentrification et de plein de trucs comme ça, pas très chouettes, donc à surveiller.
Et en parlant de choses toxiques, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose autour d'un état colonial et toxique peut-être ?
Oui, tout à fait. Donc, il y a une pétition du collectif 69 Palestine. Voilà, donc le but de la pétition, c'était de boycotter le spectacle qu'il y a à Lyon en ce moment, à la Maison de la Danse. C'est le spectacle, c'est Bat Sheva Lyon. Mais en fait, c'est une compagnie de danse qui fait la promotion de l'apartheid israélien. Donc, le collectif 69 Palestine voulait au début faire une action, mais vu le contexte un peu tendu en ce moment, elle a préféré ne pas faire d'action. Mais elle invite à écrire à la Maison de la Danse et de signer donc cette pétition pour dire qu'elle condamne le fait que la compagnie de danse israélienne Bat Sheva Dance Company ait été produite dans l'établissement, parce qu'elle est financée par le ministère de la Culture et par le ministère des Affaires étrangères d'Israël, et qu'elle participe à l'initiative Marc Israël du gouvernement israélien. Voilà, du coup, quand Israël sera un état normal et qu'il cessera les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, eh ben, ce sera possible, mais pour le moment, ils invitent à boycotter ce genre de compagnie.
Voilà pour ce qu'il y avait à dire aujourd'hui à l'échelon local. Alors, vous n'avez sans doute pas loupé cette information. On va parler maintenant un petit peu de ce qui a pu se dire autour de l'assassinat de journalistes, de policiers, d'un homme d'entretien et de juifs les 7 et 8 janvier. Après cet horrible assassinat, donc la France, le Monde, les pubs de JC Déco à Lyon, ouais, par exemple, hurlaient tous comme un seul homme, je suis Charlie. Slogan ô combien chargé d'émotions. Alors on va commencer par un petit résumé de ce que chacun et chacune a pu entendre au boulot, dans la rue, autour de la machine à café, chez papa et maman, tonton qui vous appelle, etc. Alors déjà, le citoyen Charlie est quand même un citoyen extrêmement connecté, puisque le hashtag Je suis Charlie a battu tous les records de tweets, à tel point que son inventeur, le designer Joachim Ronsin, a déposé jeudi 15 janvier, c'est son avocat qui déclarait ça à l'AFP, le slogan pour prévenir, disait-il, d'une exploitation commerciale, sans doute, Joachim. Voilà. Alors, sinon, à la pause café, le citoyen Charlie était souvent extrêmement indigné. Il prétendait, par exemple, qu'il n'aurait jamais pu penser que dans un pays comme la France, un pays de tolérance, le pays de Voltaire, une telle attaque contre la liberté d'expression était possible. Le même citoyen Charlie, après être descendu dans la rue dimanche, célébrait l'Union nationale, et lundi, autour de la machine à café, il trouvait quand même super cool que toutes les adversités politiques tombent après un événement comme ça. Il y avait au moins ça de positif. Au bureau de tabac, le citoyen Charlie, ce mercredi, aujourd'hui et avant-hier aussi, se retrouvait face à son buraliste bien embêté, puisqu'il n'avait plus de journaux de Charlie. Et alors, le citoyen Charlie demandait s'il pouvait réserver, et alors il donnait son nom au buraliste qui prenait ce nom et le gardait pour la prochaine édition. Puisqu'apparemment, il a été retiré plusieurs fois, à plusieurs millions d'exemplaires. Le citoyen Charlie, également, ce bon citoyen, disait fermement qu'il ne faisait pas d'amalgame. Ça, non, ça risque pas. Et on a pu entendre, moi, les Arabes, tant qu'ils pratiquent pas trop à l'extrême, ça va. Le citoyen Charlie, d'ailleurs, était souvent fier d'être dans un pays d'immigration comme la France, et il avait souvent tendance à rappeler que lui aussi avait un papa italien, une maman polonaise, et que quand même, eux, ils s'en étaient bien sortis.
Équipés pour le Québec libre, forcément.
Et oui. Le citoyen Charlie, enfin, s'inquiétait un petit peu pour sa sécurité. Il se demandait s'il fallait pas quand même prendre des lois un peu fortes pour lutter contre ce genre d'extrémistes qui sortaient de nulle part. Le mal sort de nulle part, c'est bien connu. Et c'est vrai qu'après tout ce qu'on se voit, disait-il, peut-être qu'il faudrait penser à peut-être plus souvent faire circuler des drones autour des banlieues et virer définitivement tous ces fanatiques religieux. Alors on tenait ici à rassurer le citoyen Charlie, bientôt toutes ces mesures seront sans doute prises et lui, citoyen Charlie, pourra reprendre son prénom, son nom de famille et reprendre une vie tout à fait normale.
Complètement rassuré.
Voilà.
Et je pense qu'on a tous croisé le citoyen Charlie qui nous a un peu écœuré dans notre quotidien. Alors moi, je, par exemple, c'est dans une école où je suis en ce moment. Et ben, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une petite rentrée parce qu'on n'était pas là la dernière semaine. Et là, le citoyen Charlie, incarné par nos gentils citoyens professeurs Charlie, sont venus le regard fermé, la larme à l'œil. Et avant tout propos, on collait une petite affiche « Je suis Charlie ». Et oui, c'est le citoyen Charlie pour nous inviter à un débat, bien sûr. Un débat où on disait déjà « Je suis Charlie ». Un beau débat. Et voilà, c'était vraiment super sympa, donc tout le monde était Charlie, tout le monde était d'accord, et bien sûr, personne ne faisait d'amalgame. Alors bon, quand même, il nous arrive aussi dans nos vies de rencontrer des citoyens pas Charlie. Par exemple, moi je suis allé me balader sur un quartier, et là, hop, bah malgré que les gentils citoyens Charlie, et bah ils voulaient pas faire d'amalgame, et bah les jeunes de quartier, ils se sentent bien vénères et bien stigmatisés par tout ça, et ils se sentent pas citoyens Charlie.
Ouais, alors, ouais, parce qu'il y a quand même deux choses à rappeler. On en rigole un petit peu. Évidemment, on condamne tout ce qui s'est passé, cet assassinat dégueulasse. Après, on peut essayer de sortir de l'émotion et puis d'essayer de comprendre. On peut prendre ces choses-là par différents bouts. On peut, par exemple, parler de ces gamins des quartiers qui se sentent pas du tout Charlie parce qu'ils ont l'impression, et sans doute à raison, d'avoir été insultés. Parce que aujourd'hui, faire des caricatures des musulmans en France, c'est pas la même chose, contrairement à ce qu'on a dit et ce qu'on entend souvent, que de faire des caricatures des catholiques, par exemple, la religion dominante, de gens qui sont plutôt socialement tout à fait bien placés.
Et... Il y a des églises partout à Lyon, par
exemple. Voilà.
Et dans tous les villages de France, globalement.
Et à qui on rappelle finalement très très rarement que leur pratique religieuse pose problème. Et taper sur des gens qui sont humiliés socialement, humiliés souvent à l'école aussi, absolument absents des politiques publiques, quoi qu'on en dise, eh bien finalement ça revient encore à taper sur les pauvres. Et c'est pas juste une question religieuse, c'est pas juste un problème de liberté d'expression. Rappelez également que les caricatures qui ont été publiées maintenant il y a 5 ou 6 ans de Charlie Hebdo, les premières avaient été publiées par un journal danois d'extrême droite, et quand l'extrême droite fait ses caricatures, tout le monde est d'accord pour dire que c'est de l'islamophobie. Les mêmes caricatures dans un journal dit de gauche sont tout à fait islamophobes aussi.
Alors du coup, ça nous a un peu marqué qu'après que dimanche, tout le monde ait manifesté pour la liberté d'expression et au grand Dieu, on a le droit d'aller dire ce qu'on pense, et notamment si on n'aime pas les barbus, oh, on a le droit d'aller l'écrire et le dessiner sur la place publique, de voir ce qui s'est passé autour de la minute de silence. Alors pour une fois là, on ne disait rien, la liberté d'expression c'était dire rien, mais en même temps, il se trouve que le jour du deuil national qui s'est passé la semaine dernière, le ministère de l'Éducation nationale s'est un peu renseigné de ce qui s'était passé dans les écoles. Et oh mon Dieu, il a recensé au début 70 cas, puis maintenant plus de 200 cas de perturbations. Mais alors, qu'est-ce que c'est que des perturbations de limite de silence? Est-ce que c'est obligatoire, par exemple? Est-ce que c'est une loi ou pas? Eh ben, pas du tout, en fait. La minute de silence, c'est quelque chose qui est proposé, qu'on peut faire ou non. C'est quelque chose qui date de la Première Guerre mondiale pour se recueillir sur les soldats qui sont morts pendant la Première Guerre mondiale. Puis après, en France, ça a été utilisé pour se recueillir sur tous les militaires qui sont morts pendant les guerres. Mais c'est vraiment un choix qu'on peut faire. Par contre, du coup, il y a quand même des perturbations qui ont été relevées par le ministère de l'Éducation nationale et qu'ils ont voulu sanctionner. Alors, pour les sanctionner, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que forcément, il faut être le citoyen Charlie. Le citoyen Charlie, il a ressorti sa petite marinière qu'on avait achetée pour le redressement productrice avec mon bourg. Il est très content.
D'ailleurs, c'est un peu la marinière de Où est Charlie?
Mais du coup, celui qui ne l'avait pas acheté en 2011 s'est senti bien perdu aujourd'hui. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé si, par exemple, vous avez pu éternuer pendant cette fameuse minute de silence? Bon, l'éternuement n'est pas encore condamnable pour la loi, mais on a cherché à savoir tout ce que vous aviez pu dire pendant cette minute qui pouvait être condamnable pour le... le redire finalement au rectorat et le rectorat l'a retransmis aux autorités policières. Et ça, ça s'est passé dans beaucoup d'établissements. Par exemple, il y a eu des phrases comme « ils ont réussi leur coup, moi je suis fière de ceux qui les ont tués, ce sont mes frères ». Alors moi, je m'en fous un peu de ce que les gens ont dit, c'est juste que c'est assez impressionnant que des gens qui peuvent avoir 7, 8, 10, 12, 14 ans, enfin en tout cas dans l'établissement scolaire, dans ce moment-là, là le vendredi à minuit où il fallait avoir la minute de silence, si vous aviez eu des propos comme ça ou des propos qui étaient condamnables envers les Blancs ou quoi que ce soit d'autre, ces propos, ils ont été consignés par écrit par certains enseignants ou par certains surveillants. Ils ont été transmis au chef de l'établissement puis au rectorat. Et les rectorats, en fait, ensuite, ils ont l'obligation de prévenir la police et le parquet. Dès lors, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est quand même assez fou. Les services de renseignement vont analyser vos propos que vous avez énoncés pour essayer, alors c'est les services de renseignement qui le font, de distinguer la simple provocation de l'apologie du terrorisme. Parce que voilà, en même temps, vous êtes quand même des enfants ou des ados, vous n'êtes pas conscient de tout ce que vous dites. Donc, il va y avoir une sorte d'analyse psychologique pour savoir si vous avez dit des propos qui sont horribles, inadmissibles, et c'est vraiment très très large. Si ça va être vraiment sur le coup de l'émotion, parce que vous êtes déboussolé, à ce moment-là, vous allez bien sûr pouvoir suivre un psychologue pendant quelques mois pour être un bon citoyen Charlie. Ou alors, vraiment, quand même, vous comprenez ce que vous dites, et vous faites l'apologie du terrorisme, et là, c'est même pas des sanctions au sein de l'établissement que vous méritez, c'est des sanctions en termes pénales. Et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Donc il y a des enquêtes qui sont ouvertes. Donc ces services s'intéressent à la personne, ils s'intéressent à ses parents. Est-ce que les parents sont au courant de ce qu'ils disent, parce que forcément les enfants répètent ce que leurs parents leur disent, à leur entourage, à leur activité sur Internet. Et c'est assez fou, il y a vraiment énormément de moyens qui sont mis derrière. Il n'y a rien qui est négligé pour stocker très très vite, parce qu'évidemment il faut enlever l'embrigadement et c'est à l'école que tout se passe. Donc la personne, elle peut être interpellée à la suite de cette enquête. Et du coup, alors on peut dire que certains jeunes, ils mesurent pas ce qu'ils disent, ils ont l'air déséquilibrés, c'est ce qu'on entend beaucoup dans la presse à ce moment-là. Et à ce moment-là, ça va être un spécialiste de la prévention de la radicalisation. Apparemment, ça existe. C'est ce que j'ai pu trouver sur des sites très sérieux comme Le Monde ou Libération, qui vont savoir si la portée de les propos ont été complètement, c'est la personne a été dépassée par l'émotion, ou alors si c'est déjà des profils d'apprentis djihadistes. À partir de ça, donc ça c'est des enquêtes qui sont réelles, qui se passent vraiment dans les écoles en ce moment. J'ai même des potes qui m'ont dit que ça c'est des enquêtes qui ont eu lieu dans des IME, du coup c'est des institutions où il y a des gens qui sont considérés comme ayant des troubles psychologiques, donc on peut être complètement dans la lune, ou je sais pas, penser à autre chose et pas s'intéresser à Charlie, et si on a eu le malheur de dire pas ce qu'il fallait pendant cette minute de silence, se retrouver avec une enquête, voire des procès derrière nous. Et donc là, tous nos politiques ne se sont pas gênés pour savoir mais comment allons condamner des personnes qui disent ça au sein de l'éducation nationale, il n'y a pas encore de loi. Donc plein de propositions ont été faites. Par exemple, Luc Ferry, ancien ministre de l'éducation nationale, a proposé qu'on donne à ses élèves des travaux d'intérêt général. Ça va être toujours... Sinon, surtout sur Twitter, parce que là, les réseaux sociaux, je ne sais pas si vous avez suivi, mais pour cette affaire de Charlie est vraiment... En fait, il n'y allait pas. Enfin, vraiment, c'est terrible. Et ben, par exemple, Éric Ciotti, je ne sais pas si vous l'avez suivi sous le gouvernement Sarkozy, mais c'était un peu un pote à Alain Bauer et un chef plus de la sécurité, qui est aujourd'hui député UMP.
Un fervent lecteur de Charlie Hebdo.
Un fervent lecteur de Charlie Hebdo, ne l'oublions pas.
Alors, du coup, qui, pour rappel, c'est un peu le théoricien des politiques sécuritaires bien dégueulasses que Sarkozy a mis en place, et pas que Sarkozy, parce que c'est un copain du gouvernement en place, donc c'est un peu notre dieu sécuritaire.
Et bien du coup, le gourou du jour, il a demandé que les allocations familiales des parents des jeunes concernés soient suspendues. Parce que, évidemment, le problème, c'est que l'État français donne de l'argent aux gens qui, potentiellement, ne seraient pas Charlie. De son côté, quand même, le ministre actuel de l'éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, a tenu à paraître très ferme. Donc aucun incident ne restera sans suite. Donc c'est vraiment dit, il y a une sorte de flicage continu à tout niveau des institutions de l'État, que si les profs ils sont d'accord, ils vont faire remonter toutes ces choses d'incivilité, a priori, de terrorisme apparemment, vu comment c'est traité, pour condamner les élèves.
Et le refus du coup de tenir un discours complexe, d'expliquer un petit peu les enjeux de tout ceci, qui se résume pas à un « je suis Charlie » ou « je suis terroriste », parce que ce type de mesures, également là pour le coup on peut aussi dire qu'elles sont liberticides, elles vont avoir sans doute comme conséquence, en tout cas c'est ce que je pense, de radicaliser les gens d'un camp et dans l'autre, finalement, autour de cette ligne de fracture qu'on refuse, en tout cas, enfin j'espère qu'on refuse et qu'on va être de plus en plus nombreux à la refuser.
Alors bah du coup pour dire voilà, ça c'est assez fou quoi que cette liberté d'expression elle a été interdite dans les écoles. Après on a l'habitude qu'on interdise beaucoup de choses à des personnes sous prétexte qu'elles sont mineures. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour des personnes majeures qui auraient refusé cette minute de silence? Alors je pense si vous étiez chez vous, peut-être ça s'est bien passé et encore. Mais par contre si vous êtes fonctionnaire de l'État, ça se passe pas comme ça. Et notamment à Lille où Martine Aubry qui ne cesse de prôner le vivre ensemble a saisi le parquet de Lille dès hier le jeudi 15 janvier pour dénoncer des comportements des agents de sa ville. Et effectivement, il y a 3 agents municipaux qui ont été suspendus suite au refus de suivre la minute de silence. Et c'est quand même assez taré parce que, alors sur un, elle dit que la personne, elle a dit que Charlie Hebdo n'avait, que l'attentat avec Charlie Hebdo n'avait pas eu lieu et que tout ça n'était qu'un complot. Donc apparemment, cette personne-là, elle aurait dit ça pendant la minute de silence. Même pour ça, enfin, genre, c'est compliqué qu'il y ait des poursuites judiciaires. Mais pour les deux autres, elles n'ont pas du tout dit ça. Elles ont juste dit que ça leur paraissait un peu exagéré, qu'elles n'avaient pas envie de faire ça, qu'elles avaient leurs raisons personnelles. Et bon, bah, ça, c'est moins relayé dans les médias. Mais n'empêche que c'est ces 3 personnes-là qui ont été suspendues. Et que ça pose un vrai questionnement de qu'est-ce que ça veut dire quand on brandit à je ne sais pas combien de millions dans la rue un dimanche après-midi qu'on est tous pour la liberté d'expression et qu'heureusement qu'on peut dire ce qu'on veut et que quelque part, il ne faut pas se vexer, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire de juste pas vouloir faire une minute de silence pour quelque chose auquel on ne se reconnaît pas? Ça veut juste dire qu'on n'a pas envie d'être derrière Hollande et Sarkozy.
Mais alors moi, je te rassure par rapport à la liberté d'expression, parce que là, tu es en train de nous dire qu'il a fallu pendant une minute fermer tous nos sphincters et notre bouche pour plus faire aucun bruit. Mais il y a des lieux pour s'exprimer. Et pas que les réseaux sociaux, on peut dire je suis Charlie, parce que grâce aux lois Cazeneuve, souvenez-vous ces jolies lois antiterroristes, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Donc ça, c'était voté en novembre de cette année. Ils ont mis
de
en
l'année
place...
dernière, ouais, de 2014.
Ah oui, pardon, excusez-moi.
Ouais, parce que maintenant c'est le futur, on est en 2015.
Mais en 2015 il y a des Charlie partout.
C'est l'année géniale, c'est l'année Charlie.
Voilà, donc en 2014, avant l'ère Charlie, notre ministre Cazeneuve avait mis en place le système Pharo. Donc c'est un petit truc sur internet où on peut bien sûr là lâcher tous ses sphincters et dans la grande aux grandes traditions françaises faire de la délation sur le net. Et ce système, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben il a vachement bien marché après les événements, puisqu'il y a eu, tenez-vous bien, 20 200 signalements suite aux événements de comportements suspects. Donc voilà, donc vous rassurez, il y a des lieux où on peut s'exprimer, où on peut cracher dans la plus belle tradition de liberté d'expression française, c'est-à-dire la délation.
Non mais c'est assez ouf parce que finalement, bah, même pour aller voir les médias dominants sur France 2, ils disaient il y a quelques jours que depuis les attentats, c'est-à-dire depuis à peu près genre une semaine, il y a déjà 54 procédures pour apologie du terrorisme. Derrière, vraiment, on peut mettre à peu près ce qu'on veut, ou menaces d'action terroriste. Alors ça, on n'a jamais compris ce que ça voulait dire, qui ont été ouvertes. Et concrètement, en fait, il y a plein de personnes qui sont poursuivies pour avoir été surprises en train d'afficher leur soutien au terrorisme. Mais ça paraît, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Et ou alors vu soit en pleine rue, soit sur internet. Donc il faut aussi voir que ces moyens-là de répression, ils sont dans plein d'endroits différents et à plein de niveaux différents. Que ces personnes, elles ont proféré des menaces à l'encontre, par exemple, des forces de l'ordre lors des contrôles de police. Alors, par exemple, est-ce que si on est contre les flics, on est contre Charlie? C'est des vraies questions, hein, qu'il va falloir se poser dès maintenant, en fait.
Il y a un type, je crois, qui a pris 4 ans d'enferme directement après un accident et après avoir eu une embrouille avec la police. Et...
Bah, c'est complètement fou. Alors là, moi, de ce que j'ai vu un peu sur le net, c'est qu'il y avait déjà 3 personnes qui avaient des peines de prison ferme et que, du coup, dans ces 3 personnes, il y en avait une qui était complètement ivre un soir.
À Saint-Etienne, là
alors ça, c'était tout à Paris,
que
j'ai vu. Et du coup, d'en avoir plein d'autres ailleurs. Mais elles ont pris à chaque fois 15 mois de prison ferme. Hein. Il n'y avait pas de sursis. Il y en avait une, elle était super ivre. Et juste en plus, elle disait après, mais moi, j'étais à la manif le dimanche. Donc c'est quand même un Charlie ivre qui est en fin de
le
soirée.
Charlie ivre.
Le Charlie.
Sa veste.
C'est ça.
C'était un agent double.
La marinière. Et là, ça a été le drame, quoi. Et c'est complètement fou. Qui, du coup, il s'appelle Mohamed. Genre. Bref. Et du coup, à 2h du mat, il a été pécho par les flics et ça a fini par... bah oui, non, mais quand même, les caricatures, paf, en tôle. Et du coup, le procureur direct, il demande 15 mois ferme avec un truc de circonstance parce que, quand même, après les attentats, on peut pas dire ça. Et la pauvre personne, elle a expliqué au tribunal pendant 20 000 ans qu'elle avait été qu'elle était à la manif ou pas, en fait. Mais ouais. Lorsqu'il a été arrêté, il a dit... Il est passé 3 fois devant des psychologues pour savoir. Et la seule chose qu'il avait fait, c'est pendant un contrôle de flic, il avait dit, ouais, les Français, c'est des bouffeurs de porc. Bah, limite, si on a bien mangé du jambon. Enfin, j'en sais rien, en fait. Mais et c'est que des arrestations comme ça sur lesquelles il faut faire vraiment gaffe. Et c'est assez fou, la paranoïa collective, je trouve, qu'il y a à partir de maintenant sur est-ce qu'on est bon ou mauvais, est-ce que c'est bien ou mal. Et c'est bien quand on est Charlie. Et dès qu'on dit, ah non, mon Dieu, qu'est-ce qu'on est en train de dire et jusqu'où on va aller.
Et on n'est pas audible, mais on fait l'apologie du terrorisme. Et derrière l'Union nationale, il y a vraiment de plus en plus, sans doute, la volonté de faire la guerre dans les quartiers et de radicaliser ces quartiers-là.
Et ça fait vraiment très très peur. Et du coup, on se souvient même de ces premières condamnations après suite à des contrôles d'internet, quand il y avait des skyblocks de lycéennes qui s'exprimaient leur solidarité aux révoltes de banlieue en 2005. Et du coup, ça rappelle quand même vraiment, ça vient date pas d'hier, des lois super sécuritaires et très liberticides. Et je trouve qu'il faut faire vraiment très attention, parce qu'on a déjà vu par le passé, mais dès maintenant, qu'il y a des arrestations au nom de rien du tout, et là au nom de la liberté d'expression, ce qui est quand même une bonne blague en France, se forme une sorte de nouveau délit d'opinion, un peu quoi, un peu au titre fourre-tout de derrière apologie du terrorisme, on peut mettre n'importe quoi, et là paf, tu passes dans le mal. Mais le mal, c'est une sorte de gros truc indépensable, et franchement, moi je me demande un peu jusqu'à quand on pourra dire flic, porc, assassin dans une manif sans se faire arrêter pour apologie du terrorisme.
Tu viens de le dire là.
Et d'ailleurs, en parlant de la police, là, il y a eu dans la région Rhône-Alpes, il y a le plan Vigipérate alerte attentat qui est déclenché. Du coup, il y a 400 hommes qui sont déployés en plus. Ils sont censés être mobiles, donc ils ne stationnent pas. Et des polices statiques, à savoir la surveillance des sites sensibles, les lieux de culte, gares, aéroports, écoles confessionnelles. Ce sont plusieurs centaines de militaires qui vont s'y coller. Donc on va multiplier par 10 la présence des soldats dans la rue. Donc il y aura plus de 10 000 militaires sur le territoire national. Au moins un dixième dans la zone de défense de Lyon. Et c'est plus que le nombre de militaires en intervention à l'extérieur du territoire français. Voilà, donc c'est pour rassurer la population, mais moi, quand je vois des bleus partout, ça me rassure pas spécialement.
Oh, ils sont pas bleus, ils sont aussi verts avec des grosses mitraillettes. Et puis, de toute façon, François Hollande, il avait promis qu'il relancerait l'emploi.
C'est vrai qu'il a annoncé qu'il allait revoir il voulait faire baisser le nombre de militaires en France, il allait revoir cette mesure. A priori, il ne va pas faire baisser le nombre de militaires en France.
Est-ce qu'on se met cette petite minute de bruit ?
Oui, petite minute de bruit. Pas pour se moquer des gens morts, évidemment, mais pour se moquer de l'Union nationale.
Tout à fait.
Donc, à tous les pas Charlie, tous ceux qui doutent ou tous ceux qui en ont marre, voici la petite minute de bruit. Alors, on s'est promené aussi dans l'agglomération, dans plusieurs quartiers, et on s'est rendu compte que ces derniers jours, eh bien, des citoyens lyonnais, des Lyonnais, ne semblaient pas être Charlie. On a vu quelques affiches, on a entendu aussi quelques individus proposer un discours un petit peu plus construit, un petit peu plus complexe que le simple slogan d'émotion. Alors, qu'est-ce qu'on a pu lire, par exemple, sur ces murs ?
Alors, il y a une affiche qui questionnait « Suis-je Charlie ?» avec tout un tas de, bah, justement, de questionnements par rapport à ça. Je peux vous en lire quelques-unes. Alors, je ne sais pas, parce que ce ne sont pas trois cinglés qui nuisent à la liberté de la presse, mais l'état sécuritaire et les logiques financières. Et ça, personne ne s'en indigne. Donc voilà un exemple. Sinon, il y a parce que je ne me reconnais pas dans l'Union nationale avec des politiciens, des bourgeois, des racistes et des flics, et parce que défiler et crier liberté d'expression aux côtés de gens comme Poutine, Netanyahou, Viktor Orban ou encore Ali Bongo me paraît incompréhensible. Donc voilà, donc effectivement on peut s'interroger. Alors surtout que par rapport à la liberté de la presse, quand on se balade dans les rues de Lyon, on voit des gens comme JC Déco qui vont aller mettre des Je suis Charlie. Donc évidemment, eux, ils ont une liberté totale dans leur affichage. Mais ça fait quand même doucement rigoler de les voir soutenir Charlie Hebdo et qui ne lisent certainement absolument pas. Et surtout qu'ils défendent une liberté de la presse qui est assez particulière, je dirais, sur Lyon, puisqu'ils ont le monopole de l'affichage sur Lyon. Donc voilà.
Mais alors bon, je sais qu'on a passé le moment des anecdotes, mais pour la petite anecdote, sur des listes de presse, il y a quelques jours une demande. Bah du coup, il y a des listes comme ça, comme pour toutes les listes professionnelles de pigistes et de journalistes. Et du coup, sur une liste de pigistes, il y avait une demande pour savoir est-ce que des gens seraient d'accord pour travailler bénévolement pour aider Charlie, parce que là quand même c'est la misère pour eux. Bon, on peut se poser la question vu déjà l'engouement populaire qu'il y a et la situation précaire des pigistes, mais au-delà de ça, du coup il y a une réponse. Donc je sais pas si vous avez déjà travaillé avec des listes internet, mais c'est des listes où on est content de pas avoir 40 000 messages par jour et que c'est plus des listes de diffusion. Il y a eu entre 80 et 90 réponses qui disaient en trois mots oui trop bien. Du coup, genre entre 80 et 90, donc vous imaginez votre boîte mail avec genre oui, trop bien, juste ça en fait, et pas une réponse à la personne. Donc à un moment donné, les modérateurs de la liste, ils ont dit ben c'est super, mais organisez-vous entre vous en fait, quoi. Genre laissez faire les choses. Et à partir de ce moment-là, ben Charlie le citoyen est sorti. Et du coup, il y a eu 20 000 réponses de journalistes, du coup de personnes qui analysent l'actualité, enfin en tout cas où c'est leur métier, qui ont dit mais c'est scandaleux, laissez-nous notre liberté d'expression. Et oui, si on veut être avec Charlie, on va répondre. Et en fait, vous voulez brider ça, vous voulez faire de la censure, et ça, c'est de la censure. Et juste ça, ben, par exemple, je trouve que ça résume un peu la situation. Ça veut dire quoi, ce truc-là? Et essayons un peu de réfléchir sur c'est quoi ce « je suis Charlie » qui n'a pas de sens, et plus, je ne sais pas, pas grand chose.
À qui va-t-il servir ce « je suis Charlie » Qu'est-ce qu'a dit Pierre Gattaz? Il a une petite sortie.
C'est parce qu'aujourd'hui, il y avait des négociations avec les syndicats et Pierre Gattaz du MEDEF. Et du coup, il a dit « non, mais après toute cette belle unité nationale, on ne va pas se redésolidariser maintenant. » Donc maintenant qu'on est unis nationalement, bah, on est tous amis. On est amis avec Pierre Gattaz, avec, avec tous les chefs d'État de toute la planète.
Alors, vu qu'on est tous amis, on propose à chacun d'aller s'incruster dans le MEDEF et d'aller manger des petits fours avec eux. On est tous copains, on est tous Charlie, quoi. Bon, super. Du coup, en parlant de liberté d'expression que tout le monde applaudit en ce moment, bah, qu'est-ce qui se passe? Oh, encore un procès pour un petit groupe de rap. C'est le groupe ZEP, donc Zone d'Expression Populaire, et le sociologue Saïd Bouamama, qui ont été mis en examen pour injures publiques et provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, par un grand défenseur de la liberté d'expression, qui est d'autre que La Griffe. Donc pas La Griffe, la librairie, La Griffe, l'acronyme AGRIF, qui est une association d'extrême droite, bien sûr. Et c'était pour leur ouvrage Nique la France. Donc voilà, c'est pas le premier groupe de rap qu'on attaque pour la liberté d'expression. Et on voit qu'il y en a quand ils décident de s'exprimer, quand ils viennent de certains endroits et quand ils tiennent certains propos. Et ben là, la liberté d'expression, elle est plus trop à propos.
Il faut leur donner des cours de laïcité, puis des cours d'éducation civique à ces gens-là.
Apprendre comment être Charlie.
Mais du coup, on va vous passer un petit bout de leur son pour vous rappeler ce que c'était, et vous allez comprendre comment ils ont nui à l'horrible liberté d'expression.
Zone d'expression populaire. Encore un nouvel affront qui fera jacter dans les chaumières. Devoir d'insolence, devoir d'irrévérence, devoir de résistance. On n'est pas là pour leur plaire. Nique la France et son passé colonialiste, ses auteurs, ses Roland et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Nique la France et son passé colonialiste, ses auteurs, ses Roland et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Ça y est, c'est réglé, maintenant c'est formel, ça y est, c'est confirmé. Parfois ministériel et nations sont lâchés, les pitochons décomplexés, carte blanche pour les grands pauvres qui ont la haine de l'étranger. Petit bourgeois, démocrate, républicain, ton pays est puant, raciste et assassin. Tes lumières, tes droits de l'homme, soi-disant universels, un mythe, un mirage, un mensonge officiel. Petit donneur de leçons, petit gaulois de souche, arrête ton arrogance, arrête d'ouvrir ta bouche. Tu juges, tu critiques les Arabes et l'Afrique noire, mais balaye devant ta porte, regarde-toi dans un miroir. Nique la France et son passé colonialiste, ses auteurs, ses Roland et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impériale. réaliste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes, nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes, nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Est-ce que j'en pense de leur identité nationale, de leur Marianne, de leur drapeau et de leur hymne à deux balles? Je vais pas te faire un dessin, ça risque d'être indécent de voir comment je me torche avec leurs symboles écœurants, affligeantes. L'évolution en 60 ans, regarde à l'Assemblée, il y a que des culs tout blancs. Ils veulent l'intégration par la Rolex ou le jambon. Ici on t'aime quand t'es riche et quand tu bouffes du cochon. Quand t'adhères à leurs projets, quand tu cautionnes leurs saloperies, leurs lois, leurs expulsions et leur amour de la patrie. Certes, ils adorent le coup.
Et voilà donc un petit extrait du groupe ZEP qui est assigné en procès. Alors du coup maintenant, vu qu'on est tous copains et tout ça, on va se solidariser avec une grève qui a été peu relayée cette semaine. C'est la grève des dames pipi, donc ça c'est le terme qu'on a vu partout, on n'a pas trouvé d'autres termes. Donc si on a un autre, on veut bien qu'il y ait un fidèle auditeur qui nous appelle. Donc des dames pipi des gares. Parce que voilà, du coup en fait qu'est-ce qui se passe dans les gares? Il y a un changement d'employeur en fait, de prestataire de la SNCF, et ils voulaient pas les reprendre en fait, donc les gens qui travaillaient dans les WC des gares, ils voulaient pas les reprendre avec leur ancienneté. Et depuis qu'ils ont fait grève, ils veulent pas les reprendre du tout en fait. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent leur faire passer des entretiens et tout. Donc voilà, une sorte de licenciement en douce. Et là, on apprécie la liberté d'expression de nos médias qui ont su se solidariser avec ces grévistes. En faisant quoi? Comme d'habitude, des interviews des gens gênés par la grève des dames pipi. Donc on pouvait entendre sur France Bleu,
quand je vais faire caca, c'est sale.
Quelqu'un sur France 2, susnommé Claudie, sûrement un pseudo pour ne pas subir la fourbe populaire dans la rue, qui s'offusquait. Je voudrais pisser, moi. Donc voilà, solidarité avec les dames de la grève. Voilà.
Super. Alors maintenant passons à quelques brèves sur les sans-abri. Alors vous n'avez sans doute pas loupé qu'à Marseille en décembre, ils ont inventé quelque chose, que le SAMU social avec la mairie de Marseille et la compagnie d'assurance privée AG2R, la mondiale. Bon, on ne sait pas pourquoi elle était là dans ce projet merveilleux, mais le projet étant de faire porter aux personnes sans-abri des badges sous la forme d'un triangle jaune. Alors bon, c'est bon, je sais pas comment ils n'y ont pas pensé, mais ça peut rappeler l'étoile jaune portée par les juifs ou le triangle porté aussi par les homosexuels qui étaient déportés. Penant, voilà. Donc ils n'y ont pas pensé, mais ça a quand même choqué un petit peu des gens, bizarrement. Voilà, donc c'était un badge qui devait être attaché, donc porté au cou des SDF, où était écrit le nom, prénom de la personne et le numéro de sécurité sociale. Mais aussi, si les personnes avaient des maladies chroniques, comme du diabète, une insuffisance cardiaque, mais aussi le VIH ou la schizophrénie. Parce que c'est très important, quand on voit quelqu'un, de pouvoir savoir qu'il est schizophrène. Alors, c'était sous couvert de protection des personnes sans-abri pour les empêcher de mourir, mais en fait, ça fait quand même un truc de fichage assez fou. Donc, il y a un collectif qui s'est créé suite à ça, un collectif de personnes sans-abri, qui s'appelle le Jugement Dernier, pour dénoncer ce dispositif qui, a priori, a été enlevé suite au scandale que ça a fait. Voilà, donc il y avait eu un rassemblement d'une centaine de personnes, d'associations et de personnes sans-abri, pour dénoncer ça, quoi, ce badge qui recensait les pathologies des SDF. Voilà pour Marseille. Après, à Angoulême, en décembre aussi, il y a eu un petit scandale, puisqu'il y avait des bancs où étaient apparemment souvent des personnes sans-abri qui ont été grillagées. Mais c'est vraiment, enfin, il y avait les bancs et tout autour des bancs, ils ont mis des grillages, juste. Un peu comme ils ont fait à Lyon avec la place Dupont, il y avait des grillages sur des places là où il y avait des personnes roms, mais là, c'était carrément juste autour des bancs.
C'est un peu grossier, parce que quand même, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y avait quand même cette superbe invention du banc qu'on transformait en chaise pour plus que les SDF puissent se coucher. Donc on comprend pas ce qui s'est passé.
Ah oui, c'est génial, ça. Quoi.
Enfin, franchement, mettre des grillages, on fait des trucs vachement mieux aujourd'hui.
Et là, à Perpignan, ils ont voulu suivre un peu le modèle d'Angoulême. Du coup, ils ont supprimé aussi 6-7 bancs du centre-ville, parce qu'il y avait des SDF qui venaient et ça faisait sale. Alors ils ont dit, bon, bah, on a enlevé les bancs 4 places, mais vous inquiétez pas, on va remettre des bancs une place, comme ça les gens pourront pas se vautrer. À Alors, donc là, c'est déjà un peu de la science-fiction, mais là, on passe en Caroline du Nord, et alors là, c'est encore un autre degré de science-fiction. Alors, c'est Mediapart qui fait un article hyper intéressant là-dessus, qui nous apprend du coup que les SDF qui traînent dans la rue sont emportés dans des camps. Les camps FEMA, ça s'appelle. Donc, ils ont droit de sortir de ces camps s'ils acceptent de se faire enfiler une micropuce sous la peau. Alors, du coup, en fait, c'est que du coup, il y a des polices mobiles qui font des maraudes dans la rue. S'ils voient un SDF qui est en train de pisser sur un mur ou qui est en train de dormir à moitié bourré, hop, ils l'emmènent dans le camp FEMA. Et du coup, il a le droit à une RFID qui sert à les surveiller et à les maintenir sous contrôle en échange du bénéfice de survie, de nourriture, couverture et vêtements. Ça vaut le coup d'avoir une puce RFID, quoi. Et du coup, cette nouvelle, elle était peu connue, mais elle commence à se répandre aux États-Unis parce que c'est quand même assez gravos pour des personnes qui n'ont causé aucun délit de se voir limiter leur liberté personnelle juste parce que c'est des sans-abri, quoi. Et donc, qu'est-ce que c'est la FEMA, alors ? Donc, la FEMA, c'est une agence gouvernementale. C'est la Federal Emergency Management Agency. Alors, à la base, elle était destinée à assurer l'arrivée des secours humanitaires en situation d'urgence. C'était une sorte de protection civile sous la supervision du département pour la sécurité nationale. Et après les Twin Towers en 2001, il y a le procureur général qui a annoncé le désir d'avoir des camps pour les citoyens états-uniens, alors qu'il considérait comme étant des ennemis combattants. Du coup, voilà, c'était des camps qui étaient vides, mais c'était juste au cas où il y ait des gens qui soient désobéissants à l'État, pour pouvoir les enfermer au cas où, quoi, voilà. Donc la FEMA, c'est une sorte de gouvernement secret qui peut suspendre la loi et la constitution américaine et les droits civils comme ça, quand bon lui semble. Son parcours a été un peu tracé par la paranoïa de la prévention. Donc c'était d'abord pour une attaque nucléaire, puis pour les calamités naturelles, puis pour les attaques terroristes, et maintenant c'est pour enfermer les sans domicile fixe.
Les Charlie,
voilà, donc ouais, nous on espère que le fait qu'il y ait des attentats en France, ça va pas mener à ça, quoi, parce que c'est assez fou quand même cette histoire. Et donc cette fédération a à sa disposition environ 800 camps qui sont délocalisés dans tous les États-Unis et qui peut détenir jusqu'à 2 millions de personnes, quoi. Donc à la base, c'est censé être pour des réfugiés hypothétiques, enfin voilà, si jamais il y a besoin. Mais comme il n'y a pas de réfugiés, bah du coup, c'est pour ça qu'ils mettent les SDF. Et en fait, chaque camp est géré de manière très autonome. C'est pour ça que c'est pas dans tous les camps pareil, la même chose qui se passe, quoi. Et du coup, voilà, en Caroline du Nord, dans les années 70, par exemple, ils avaient enfermé une masse d'activistes de couleur, voilà, quoi, qui étaient pas contents. C'est une sorte de Guantanamo plus grand, pour accueillir les personnes terroristes, dites terroristes et tout ça. Et après, bah, c'est ça, voilà. Donc, c'est depuis 2013 qu'ils enferment également les SDF dans ces camps, qui se situent à quelques kilomètres de la ville de Caroline du Nord, là. Et donc, il y a des sites qui combattent qui sont pour les droits humains, comme trueactivist.com, qui en parle. Et il y a quelques sites qui commencent à en faire référence, mais c'est assez secret pour le moment, voilà. Donc c'est tout, mais si vous voulez plus de détails, vous pouvez en avoir sur Mediapart.
Et du coup, on en profite juste aussi pour faire le lien avec tout ce qui se passe, parce que là encore, c'est un truc qui peut paraître anodin, mais on voit bien comment loi antiterroriste, état sécuritaire, technologie et lutte contre la pauvreté vont s'allier en fait. Et il y a pas mal de trucs intéressants à voir sur ces fameuses puces RFID, hein, qui ont été commencées à utiliser en France beaucoup sur les moutons, qu'on retrouve maintenant, attention, dans les magasins comme Antivol, qui permettent de scanner les gens à la sortie, donc par exemple à Decathlon, pour savoir ce qu'ils ont chourave avec un petit smartphone, et qu'on implante maintenant dans les humains pour les contrôler comme du bétail ou des objets.
Alors, bah du coup, on était dans l'international. On va aller en Algérie, où en fait, depuis une quinzaine de jours, il y a une très forte mobilisation contre l'exploitation du gaz de schiste. Alors en fait, Donc l'Algérie a annoncé dimanche 11 janvier, donc très récemment, que le groupe pétrolier Sonatrach ou Sonatrach, je sais pas trop comment on le dit. Sonatrach, investirait pas moins de 70 milliards de dollars sur 20 ans pour produire 20 milliards de mètres cubes de gaz de schiste par an. Alors Sonatrach, parce qu'on dit est une compagnie publique algérienne qui est en fait la première compagnie d'exploitation de pétrole et de gaz du continent africain. Alors le gouvernement algérien ainsi que Sonatrach pensaient très certainement que l'exploitation du gaz de schiste allait passer comme une lettre à la poste, puisque avant fin décembre en fait il y avait très peu de protestations. Mais depuis le 1er janvier, donc voilà, on entame l'année sur des chapeaux de roue. Depuis le 1er janvier, journée qui a rassemblé à peu près 1500 personnes à Insala pour protester contre le gaz de schiste, les commerces, écoles et administrations restent fermés. Alors, Insala, c'est une ville qui se situe à peu près au milieu de l'Algérie. Ce mouvement a été initialement lancé par l'ONG environnementale Insala Sun and Power, et a été rapidement rejoint par la population locale, dont beaucoup de femmes et d'enfants. Alors, pourquoi la mobilisation a démarré à Insala ? Eh ben, c'est dans la région d'Anay, à 35 km justement d'Insala, qui a été mis en place un puits pilote d'exploitation en très étroite collaboration avec, c'est étonnant, le groupe français Total qui détient quand même une très forte part, qui tient une participation de 49% sur les permis d'exploitation dans la région d'Anay. Donc, Total, pour rappeler, qui a également investi des milliards d'euros dans d'autres pays comme l'Angleterre ou l'Argentine pour exploiter le gaz de schiste. Et donc ça, c'était à la fin de l'année dernière, donc le 27 décembre 2014, le ministre de l'Énergie avait félicité ce succès du puits de forage en déclarant « Ce forage confirme l'existence de réserves importantes de gaz de schiste dans le bassin de l'Anay et que cela allait ouvrir de nouvelles perspectives économiques pour l'Algérie et pas moins de 8000 emplois pour 2015. » Ouh. Donc là, on retrouve les mêmes arguments qu'aux États-Unis, en Angleterre ou même en France pour faire passer la pilule, c'est-à-dire on met en avant les énormes réserves à exploiter qui apporteront indépendance énergétique et puissance économique, mais surtout de superbes emplois précaires. Alors, et donc, malgré cette belle déclaration du ministre de l'Énergie, depuis le 1er janvier, le mouvement de contestation a été qui s'est initié à Insala s'est rapidement étendu dans plusieurs localités voisines et rassemble de plus en plus de monde. Alors déjà, il faut savoir qu'à Insala, c'est la grève générale depuis le 1er janvier. Et l'ensemble de la ville est complètement paralysé. Le 4 janvier, il y a eu 4000 personnes qui ont manifesté dans les rues de la ville et qui sont allées occuper les locaux du siège de la Daïra. Alors donc Daïra, c'est en fait une subdivision de Wilaya. De la Wilaya, en fait, c'est un peu les équivalents administratifs de la communauté de communes, donc communauté de communes qui va être la Daïra, et le département qui va être la Wilaya. Alors, des affrontements ont eu lieu entre les flics et les manifestants, provoquant alors notamment tragiquement la mort de Mohamed El Noui, qui avait 21 ans. Donc ça a relancé fortement la mobilisation. Et dès le 6 janvier, une ville donc, qui se situe quand même assez loin, a rassemblé 2000 personnes qui ont marché dans les rues de Taman Rasset en solidarité avec les habitants et les habitantes de Sala. Alors après, il faut savoir que la mobilisation continue toujours. Il y a le 15 janvier, il y a une énorme mobilisation qui rassemblait 20 000 manifestants à Insala. Alors Insala, c'est une petite ville quand même, hein. Donc faut avoir 1000 festants dans Insala, ça doit être quelque chose. 4000 à Taman Rasset et 5000 à j'ai du mal à lire les noms, Ouarlegla. Voilà. Il y a une autre journée qui est prévue de mobilisation qui est prévue demain, donc 17 janvier, avec un appel à des marches dans plusieurs villes du sud et un sit-in qui est appelé à Alger. Alors, que dénoncent exactement les opposants au gaz de schiste en Algérie ? Alors déjà, ils pointent les quantités d'eau nécessaires à l'extraction du gaz. Alors, comme le souligne l'association ATTAC et le mouvement Frac Free Europe, dans un community qu'ils ont fait en octobre 2014, l'Algérie, comme ses pays voisins, est ce qu'on appelle dans un stress hydrique permanent. Et la nappe albienne, donc, qui va s'étendre sur trois pays, c'est-à-dire l'Algérie, la Tunisie et la Libye, n'est pas renouvelable. Et donc les pluies sont trop faibles pour recharger ce qu'on appelle les aquifères. Bref, et donc ça c'est le premier point, c'est-à-dire qu'il y a une pénurie d'eau. Et ensuite, il y a la pollution de l'eau. Donc là, il y a le journaliste algérien Mehdi Psikri, qui a donc militant anti-gaz de schiste, qui a fait part le 2 février 2014 de la crainte des agriculteurs du Sud. Alors, donc il expliquait que exploiter le gaz de schiste dans cette région revient à provoquer un véritable écocide, d'une part en utilisant une ressource en eau non renouvelable et de manière excessive, d'autre part en condamnant les populations sédentaires et nomades qui vivent dans cette région désertique à consommer une eau polluée par les adjuvants chimiques injectés lors de la fracturation hydraulique ou également les métaux lourds qui sont mélangés aux eaux de surface. Alors, pour terminer, et donc là j'ai fait très bref. Bravo. En fait, au moment où en fait il y a toute cette...
S'il vous plaît.
S'il vous plaît. Non, mais en fait, au moment où il y a toute cette mobilisation qui est très importante, donc les gens d'Insala dénoncent le fait que les forages sont maintenus, que la protestation prend des ampleurs, etc. Ben, en fait, pendant ce temps-là, les gens de Sona Trash, ben, eux, continuent quand même à appliquer leur programme, et alors, notamment à Darlmar, qui est très proche de Insala, où ils vont continuer à faire des puits de prospection de gaz de schiste. Donc voilà, donc ça c'est une lutte qui est en cours et qui est, à mon avis, qui est pas du tout terminée. La mobilisation grandit et donc on espère que ça va aboutir sur la non-exploitation du gaz de schiste là-bas. Donc voilà.
Ok, super. Et bien, juste une petite minute sur l'Espagne, puisqu'il y a des malades de l'hépatite C qui ont défilé le 10 janvier à Madrid, Cordoue, Malaga et à Grenade pour réclamer un traitement pour les patients atteints de l'hépatite C. Voilà, du coup, en fait, c'est qu'il y a un médicament qui existe, une combinaison de médicaments de dernière génération, plus exactement, qui permet un taux de guérison de 90%. Mais le problème, c'est que ce traitement coûte 50 000 euros et pour le moment, il est administré qu'aux patients qui sont en danger de mort. Voilà, du coup, il y a des rassemblements et des pétitions qui se sont multipliées dans le pays ces derniers mois.
Et en fait, on n'entendait peut-être pas vraiment. Mais bon, donc il y avait des pétitions pour que les malades de l'hépatite C aient leur traitement dans toute l'Espagne. Et il y a 500 000 personnes qui sont contaminées par l'hépatite C en Espagne. Donc on espère qu'elles vont avoir droit au traitement.
Et qu'est-ce que c'est? C'est le son de la Chips, le super jingle qui annonce bien sûr l'agenda.
L'agenda. Alors, tout d'abord, dans l'agenda, à Paris, le 17 janvier à 14h30 à la Bastille, il y a une manifestation nationale pour le droit de toutes à l'avortement. Et ça fait en fait 40 ans que la loi sur l'avortement est passée. Donc c'est une manifestation pour l'abrogation de la loi hôpital, patient, santé, territoire. Je ne sais plus si vous vous souvenez de cette loi, mais en fait elle impliquait la fermeture de nombreuses maternités où est pratiquée l'IVG. Donc il y en a beaucoup qui ont fermé. C'est aussi dans cette loi qu'il y a la tarification à l'acte. Voilà, donc c'est aussi une manifestation pour le développement des services publics. Et il y a un centre IVG dédié par hôpital qui est demandé avec le choix de la méthode d'avortement. Voilà, donc elle demande avant tout plus de moyens.
Et par exemple, si vous voulez y aller à Lyon, eh ben ça a lieu demain entre 14 et 17 heures, place de la Comédie. C'est la place où il y a l'opéra.
Alors ensuite, également demain au CSA Burlesque, Il y a une soirée à l'atelier des Canulars qui est rue Montesquieu. Donc il y a un show burlesque pour les meufs. C'est en non-mixité meuf, cis et trans. Et c'est à 20h. Et voilà, il y aura plein de shows.
Et dans la suite de la semaine, du coup, le mercredi 21 janvier, on aura The Punk Syndrome et Viviane Grésini à la Lutine. Donc, qu'est-ce que c'est? Ce sera une projection d'un film documentaire finlandais, donc The Punk Syndrome, avec une discussion et des écoutes d'archives avec Vivian, Underground, Pollution. Et oui, je parle très mal anglais. Et là, on se rend compte qu'on est...
On
n'est plus
à l'heure.
Non, mais alors, il faut rappeler que demain, en fait, il y a aussi le... Une, alors c'est pas vraiment une soirée parce que ça commence à 15h au moins après pour en soutien à Radio Canu, donc qui se passe à l'autre côté du pont à partir de 15h jusqu'à 1h du matin je crois, je sais pas.
Oui, il y aura
avec des débats, des concerts, des
voilà,
plein de zik donc il faut
et
il faut
du repas aussi, la nourriture.
Il y a un repas aussi, tout à fait.
Mais ce n'est qu'une première soirée de soutien, parce qu'il y a également une soirée de soutien à Radio Canu le 31 janvier à ne pas louper à l'atelier des Canulars.
Tout à fait.
Celle-ci sera aussi très bien. Peut-être qu'on peut rappeler.